Bienvenue au Polysécur, épisode technique. Je suis avec Nicolas. Est-ce que tu peux te présenter?
Yes, hein, merci, Nicolas. On est deux, Nicolas.
Oui, hey, ça va être terrible. Hein?
Oh, ça va être incroyable. Fait que Nicolas Bédard, de mon bord.
Oui.
Je suis Customer Engineer chez Google Cloud. Ça fait un petit peu plus que deux ans que je travaille chez Google Cloud. Je suis spécialisé en sécurité, mais dans mon quotidien, je gère à peu près tout ce qu'on peut avoir besoin de gérer pour Google Cloud. Donc, chez mes clients, ma job, c'est d'écouter écouter leurs problèmes, comprendre ce qui ne marche pas, puis trouver des solutions qui matchent dans l'écosystème de Google et de Alphabet. Fait que là, c'est ça que j'aime beaucoup dans ma job, c'est que oui, je fais beaucoup de sécurité, mais je ne suis quand même pas limité à ça. Je peux faire plein d'autres trucs. Sinon, avant d'être chez Google, j'ai travaillé pendant près de 8 ans dans le service conseil en sécurité, principalement dans tout ce qui est network puis endpoint security, un peu aussi dans le SOC monitoring, dans des compagnies de consultation au Québec. Puis avant ça, j'ai fait une ride de 10 ans chez Jean Coutu, Plugo Jean Coutu. Donc, j'ai quand même un bon background technique.
Oui. Très intéressant, ça, même.
En tout cas, j'espère. J'espère que ça va être j'espère que ça va être cool. J'espère que ça va être intéressant.
Puis, oui. Oui, puis là, dans le fond, c'est le démarrage d'une série Google. Ce gars offre des services de sécurité très intéressants ou a des éléments de sécurité très intéressants dans son offre qui inclut ça. Donc, le premier épisode, puis je trouve pour moi le plus important, c'est tout le volet de confidentialité parce que ça occupe beaucoup l'esprit des gens. Les gens, je crois, ne comprennent pas l'ensemble de ce que c'est. La plupart des cloudeurs ont une offre très intéressante, mais on va vraiment creuser celle de Google qui est très intéressante à mon avis. Et justement, voir à quel point les informations sont protégées et à quel point on n'a pas besoin d'avoir si peur que ça du méchant cloud.
C'est quoi l'idée numéro un préconçue que tu entends sur Google?
On n'entend pas sur Google spécifiquement, sur le cloud en général, c'est que les Américains vont aller voir nos données. Ça, c'est vraiment, ça habite l'esprit des gens. Ils ont peur et subséquemment à ça, suivant ça, c'est le volet que le fournisseur Google dans cet instant, dans ce cas-ci, irait voir mes données puis irait fouiller dans mes choses. Puis en plus, c'est vraiment pire dans le cas de Google à cause de l'engin de recherche parce qu'il y a ce stigmate-là dans l'image, dans la sphère publique qui se transfère dans la sphère entreprise et que les gens ne comprennent pas la distinction très importante entre ces deux univers-là parce que le modèle d'affaires n'est pas le même. Mais ça, c'est ce que j'entends beaucoup.
Exact, absolument pas. Non, c'est côté enterprise, ça n'a rien à voir la confidentialité des données. Ce que je te dirais, c'est que la confidentialité des données chez Google, c'est au cœur de notre mission. C'est on ne vend pas. Il y a quelques mythes là, qu'on pourrait défaire aujourd'hui. On ne vend pas les données. Donc, d'aucune raison, sous aucune considération, on monétise les données qu'un client pourrait avoir dans Google Cloud. On ne s'en sert pas pour ads, on ne s'en sert pas pour aucune raison. Donc, ces données-là sont complètement inaccessibles à Google. Donc, notre technologie fait en sorte qu'on encrypte par défaut tout ce qui rentre dans Google. On vous donne des clés. Vous pouvez avoir votre propre clé générée par Google, mais la clé, on n'y a pas accès. Puis, vous pouvez même fournir vos propres clés. Ça fait en sorte que même si on était capable, on ne peut pas. On est complètement... Vos données ne sont pas accessibles à Google. Ça, c'est relativement un concept simple.
Mais mal compris parce que les gens comprennent pas la différence. Que, de toute façon, c'est ça aussi l'aspect, c'est quand on est un client payant, le modèle d'affaires, c'est de récolter l'argent que le client nous verse. Versus le modèle grand public où on ne paye pas pour le service et c'est normal que le service doive se payer par d'une façon ou d'une autre. Fait que ça, c'est, mais il y a comme un amalgame rapide qui se fait. Puis c'est malheureux parce que ça ferme des possibilités comme très importantes. Là.
Il faut aussi regarder c'est quoi la confidentialité des données. C'est quoi ta définition de confidentialité des données? Il y a des concepts. Essentiellement, nous autres, on le résume à trois places. Tu as la donnée en transit, donc quand elle voyage. Tu as la donnée quand elle est emmagasinée, storée, at rest, en anglais, qu'on utilise. Puis après ça, tu as celle pendant qu'elle est traitée. Dans les trois cas, Google, dans les deux premiers cas, c'est-à-dire in transit et at rest, on est encrypté par défaut. Donc, même si on voulait, on ne peut pas. Vous n'avez même aucune façon de les rendre pas encryptés. Donc ça, c'est facile. Puis vous avez toujours l'option de prendre, d'avoir, d'utiliser vos clés si vous n'avez pas de KMS. Fait que ça, c'est assez simple. Puis la dernière, ben, c'est du confidential computing. Donc, si jamais vous êtes encore plus pointilleux sur certaines exigences de confidentialité, ben là, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des VM qui sont, elles, spécialement conçues pour même pas nous permettre de voir les données qui sont traitées. C'est des VM spécialement faits pour ça.
Moi, ça me fait toujours rire. On me sort l'exemple. Oui, mais ils peuvent voir, mais c'est parce que, un, la masse de données, ouais, est-ce qu'ils vont vraiment aller spécifiquement les voir? Puis surtout sur du compute, qui est naturellement de l'éphémère, parce qu'une fois que le compute est terminé, il n'existe plus. Soit il redevient en mouvement, soit il redevient au repos, puis le résultat va être rendu comme ça. Fait que c'est très intéressant. Ce qui est aussi peut-être préoccupant pour bien des gens, la traçabilité, parce que je ne suis pas sûr que la transparence du fournisseur est légale. Comment Google aborde justement le degré de transparence d'accès qui pourrait potentiellement être fait par un ingénieur de chez Google?
Oui. Bon, ben, maintenant qu'on a statué qu'on ne pouvait pas accéder à la donnée en tant que telle, maintenant, comment on fait pour supporter un client? Donc là, dans les faits, c'est deux choses. C'est-à-dire, mettons qu'on a un client qui a un problème. Il n'est pas capable de faire une configuration, il y a quelque chose qui a arrêté de marcher, il ne sait pas pourquoi. Il a besoin d'aide de notre centre d'appel. Donc là, il va ouvrir un appel de support, comme dans tous les centres de support. Puis à ce moment-là, l'ingénieur va lui demander formellement l'autorisation de se connecter à la console. Donc, c'est vraiment une question. On n'accède pas à la donnée directement, on accède à la console de la personne qu'on essaie d'aider. Puis à ce moment-là, chaque action, chaque activité et même le fait de demander l'autorisation est logué. Donc, dans votre instance Cloud, il y a quelque chose qui s'appelle Cloud Login qui ont essentiellement tous les logs de la plateforme, tous les logs des workloads, tous les logs de sécurité. Mais il y a une partie de ça qui est les logs qui ont été générés par des employés du centre de support de Google qui vous aident. Fait que toutes les traces sont laissées. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez faire des rapports. Vous pouvez les exporter, les archiver. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ces données-là, c'est implicite. Ça arrive 100% du temps dès qu'un employé du support de Google doit accéder à vos données. Fait que first, vous avez besoin de l'autoriser. Puis une fois que l'autorisation est faite, il y a une trace qui est gardée.
Je pense que c'est un élément très rassurant pour ceux qui sont plus nerveux, justement, cette trace-là, parce que justement, on a peut-être tendance à pas nécessairement faire confiance dans ce contexte-là. Et les éléments suivants, justement, quand tu m'as posé comme question en entrée de jeu, c'est quoi ce que j'entends? Bien, le méchant gouvernement américain. Mais essentiellement, c'est pas juste le méchant gouvernement américain. C'est tout gouvernement qui a un intérêt légitime à aller accéder à de la donnée avec des subpoenas ou des mandats de la cour et ainsi de suite, qui vont justement aborder ce genre de choses-là. Puis c'est peut-être là la plus grande part à quel point les forces, surtout étrangères, dans un cas d'un contexte de souveraineté, peuvent venir justement aller voir nos données qui sont stockées dans Google. Il y a des processus, puis je pense que ça aussi, c'est pas clair pour les gens à quel point ces processus sont encadrés. C'est pas un bar ouvert, puis il y a des éléments autour qui viennent justement calibrer cet accès-là selon des principes très définis. Là.
Non, c'est clair. J'essaie de regarder dans mes notes te donner d'autres références. Si jamais un gouvernement devait faire une requête, parce que s'il y en a, il y a des enquêtes pour de la fraude et toutes sortes de sur des personnes. Le processus de requête est encadré. Vous avez de la visibilité sur les requêtes qui nous sont faites d'une entité gouvernementale aussi. Fait que ça, c'est pas fait dans le dos de personne. C'est de la minute qu'il y a une enquête qui est faite sur n'importe qui, puis qu'il y a une requête officielle qui est faite à Google, vous allez voir ce processus-là. Ce processus-là, c'est même documenté. La manière que ça se passe, c'est on va rediriger le contact de la personne de l'entité gouvernementale à vous directement. On va revoir les requêtes pour la validité, puis ça, c'est s'assurer que tout est correct dans le cadre légal, puis on va vous notifier, on va vous aviser avant que chaque information soit donnée à l'instance gouvernementale, si c'est pas empêché par la loi, s'il n'y a pas une loi qui empêche de faire ça. Par la suite, il y a un transparency report qui existe qui va vous permettre d'aller justement voir tout ce qui a été communiqué, si jamais elle a été communiquée et approuvée par vous. Donc, C'est essentiellement ça, comme ça que ça fonctionne. Mais évidemment, si l'information a été encryptée, puis vous avez les clés, on va donner un paquet de blurb.
Oui, ben c'est ça, c'est ça l'ultime protection, c'est d'avoir les clés soi-même. Fait que... Dans cet univers-là. Fait que c'est très intéressant. Puis ça touche autant les environnements, le workspace, que tout l'autre, l'environnement GCP plus standard. Là. Fait que ça coûte. Fait que déjà, c'est déjà plus rassurant pour de voir ça comme ça, effectivement, que c'est pas aléatoire, c'est pas au hasard. Ils peuvent pas aller voir n'importe quand, n'importe comment les choses se passent. Là, tu parlais de justement le chiffrement. Il y a peut-être des fois des inquiétudes, puis là, on en parlait en off d'ailleurs, le fait qu'il y a des fois des données qui sont stockées, on va parler de souveraineté de façon nationale au Canada, mais le traitement, par exemple, parce que les choses ne sont pas disponibles, vont se faire traiter à l'étranger, aux États-Unis en l'occurrence, parce que là, c'est probablement que là que les choses les plus avancées se situent. Comment ça se déroule dans un contexte de confidentialité? Puis tu m'as donné un très bel exemple justement qu'il n'y avait pas, t'as quand même pas de soucis, mais c'est bien que quand même tu relates le.
J'ai, en fait, c'est une belle histoire, ça. J'ai un de mes clients dans les fintechs, un jour, il voulait faire un projet en intelligence artificielle. Utiliser un de nos outils de Google en AI. Puis, le client avait un concern. Il me dit, là, est-ce que vous pouvez nous assurer, nous, avec notre fournisseur qui est dans le domaine bancaire, on doit absolument s'assurer que les données restent au Canada. OK, parfait. Je fais des recherches. Puis là, je finis par découvrir que... Puis ça, c'est le cas pour beaucoup de services cloud, pas juste Google, tu sais, à travers le monde. Il y a certains services qui sont pas disponibles dans toutes les régions. Il n'y a pas de cloud provider qui est capable de dire 100% de leur offre va être disponible dans 100% des régions. Pour plein de raisons. Des raisons de capacité, des raisons technologiques. C'est pas nécessairement garanti que tous les services vont rouler partout. Dans le cas qui nous concerne avec cette histoire-là, ce client-là, le service était disponible juste aux États-Unis. Il n'y avait pas de disponibilité au Canada. Je fais comme bon, OK. Je donne l'information au client. Là, sa réaction, c'est mais là, on ne peut pas, dans l'entente qu'on a avec notre client à nous, c'est que les données doivent rester au Canada. C'est comme OK. Qu'est-ce qu'elle dit l'entente? Elle dit ben là, il faut que ça reste au Canada. C'était à peu près ça là, la réponse que ce client-là me donnait, puis je suis comme parfait. Bon, on va définir encore, on revient un peu au concept qu'on a parlé tantôt.
Oui.
On va définir c'est quoi être au Canada. Est-ce qu'on parle des données en transit, des données address ou des données en process? Parce qu'essentiellement, si l'obligation ou la compliance à laquelle vous devez répondre pour contractuellement respecter votre contrat, c'est les données address. Il n'y a pas tant d'enjeux. On va processer les données ailleurs, on va les ramener au Canada pour le storage. Fin de la discussion. Sinon, si ça couvre aussi les données en transit, ben essentiellement, du moment où tu possèdes les clés qui fly sur le réseau de Google, qui est réseau privé, by the way, qui fly sur le réseau privé de Google, encrypté avec tes clés, il n'y a pas tant d'enjeux. Puis après, c'est l'encryption en process. Puis nous, on n'a pas accès à la donnée une fois qu'elle est en mémoire. Nous, ce qui nous concerne, ce qu'on veut, c'est la méthode donnée. T'sais, on applique le modèle, puis après ça, la donnée, on s'en fout un peu. On te retourne le résultat. Puis là, c'est une belle histoire parce que j'ai demandé au client, peux-tu me donner précisément qu'est-ce que tu as besoin? Finalement, il dit, on va regarder nos contrats, puis on va te revenir avec ça. Finalement, une couple de semaines après, il me rappelle, il dit « Écoute, Nick, on a regardé, puis on était sous l'impression que les données devaient rester au Canada, puis étonnamment, non, il n'y a pas de clause très spécifique qui dit « Les données doivent rester au Canada. » Puis là, on est allé de l'avant avec le projet, mais souvent, c'est ça, c'est des idées préconçues. Là, tu dis « OK, oui, mais il faut qu'on garde ça ici. » Oui. Pourquoi? Selon qui? Comment? Parce que le comment il est super important. C'est peut-être le résultat, le produit final ou l'archivage long terme, OK, peut-être, mais c'est peut-être pas tout.
Oui, puis même encore là, tu mentionnais que dans l'ensemble, l'information n'est jamais mise à risque, qu'elle soit stockée ou déplacée. Puis même dans le compute, elle peut le protéger aussi. Puis de toute façon, en AI, on s'entend qu'on ne sait pas trop ce qui se passe là-dedans. Là. C'est un peu farfelu de penser que justement d'analyser le comportement du modèle AI, on va être capable de dériver quelque chose. C'est le résultat qui nous intéresse dans ces conditions-là. Fait que faut vraiment comprendre ce qu'il y en a. Puis de toute façon, à la limite, tu vas utiliser ton SQL compute avec tes clés en mémoire. Puis oui. Rendu là, si c'est ça qui fait vraiment qui fait vraiment peur, mais c'est justement se protéger des. Faire un lien avec ce qu'on. C'est juste avant, que potentiellement un gouvernement viendrait voir, mais encore là, il y a des traces, il y a des éléments, et tout est mis en place. On va juste glisser un peu sur le volet international hors du Canada, parce que l'Europe a beaucoup d'inquiétudes de ce côté-là aussi. Ces notions-là se passent aussi en Europe. J'imagine qu'il y a moins de déplacements extraterritoriaux en Europe que par rapport à ce qu'on a ici.
Je serais curieux de savoir un peu la norme européenne, elle s'applique à spécifiquement à quel territoire, parce que c'est sûr qu'à l'intérieur du réseau.
C'est le bloc européen au complet.
Fait que, bon, quand on regarde comment les régions Google Cloud sont bâties, elles utilisent le réseau privé de Google ou de Alphabet. Je pense que c'est plus simple pour ceux qui savent que
oui.
Alphabet, c'est l'entité mère de Google, de YouTube, Waze et toutes les divisions. C'est un réseau privé. Fait que c'est sûr que toutes les régions qu'on a dans ce secteur-là sont assujetties à la réglementation. Puis quand on doit respecter, mettons, un GDPR, par exemple, c'est de la confidentialité, ben là, c'est beaucoup la responsabilité de la personne qui met les données dans la région de s'assurer que les données de résidents européens sont emmagasinées dans la région européenne. De toute façon, dans chaque région, chaque produit a une certification chez nous. En fait, que ce soit Hip-Hop CI et compagnie, sur notre site Internet, c'est écrit chaque produit, la conformité à laquelle elle répond. Donc, en cas de doute, on peut toujours aller vérifier si on est compliant. Mais par rapport à l'Europe en soi, ça va dépendre vraiment du type de compute qu'on a besoin. Les computes, tu sais ce que je te parlais tantôt avec l'AI, ça c'est un API chez Google. Tu sais, il y a une différence entre une VM compute sécurisée, le confidential compute, où ce que là on va littéralement donner une machine virtuelle avec un processeur AMD PIC, où ce que là tu vas contrôler la clé. Là, tout ce qui va se passer à l'intérieur de cette VM-là est à toi, c'est 100% toi qui gères la confidentialité. Ça, c'est le confidential compute. Après ça, quand on utilise des API de Google, ben la VM ou l'espèce de boîte est gérée par Google. Fait que là, c'est certain qu'elle est encadrée par tout le processus normal que Google utilise pour Google en premier. C'est les mêmes règles qui sont assujetties. T'sais, Google doit se conformer à certaines réglementations internationales, donc on le fait pour que Google soit conforme en premier. Parce que c'est sûr que là, tu as le client d'un côté, tu as Google de l'autre. Quand on utilise un API, peu importe lequel, que ce soit pour du storage, que ce soit pour du CDN, que ce soit pour de la sécurité, ben là, c'est Google qui le gère. C'est tout encadré par les règles de gouvernance puis de compliance de Google. Donc là, à ce moment-là, c'est sûr que le client, il n'a pas le contrôle sur la clé en tant que telle, mais il a l'assurance que, ben les normes auxquelles on doit se conformer, nous, ben c'est ce que...
De toute façon, les certifications sont là pour démontrer que le respect de ces normes-là, ça aussi, c'est important. Les gens le comprennent pas nécessairement très bien que toutes ces certifications-là sont obtenues par des vérifications, par des tiers. Là. C'est des compagnies tiers qui viennent vérifier si Google respecte ce qu'il dit, puis essentiellement, là, c'est un peu dans cette sphère-là. Puis là, je vois que tu sors une liste de...
Ouais, ben, quand je regarde la liste, mettons, de qu'est-ce qu'on a comme compliance capability, tu sais, tu dis qu'on se fait, tu sais, régulièrement, là, on se fait auditer, Google s'est fait auditer par des fournisseurs, des auditeurs indépendants, puis on a plus de 2 millions de points de contrôle qui sont audités à chaque année. C'est comme ça qu'on réussit à maintenir toutes les certifications régionales et industrielles, donc qui sont globales. Donc c'est quelque chose qu'on prend au sérieux, je te dirais.
Oui.
Vraiment. Puis on l'a toujours pris au sérieux parce que d'abord et avant tout, Google Cloud, il faut comprendre que Google Cloud fait partie de l'environnement d'Alphabet. C'est une infrastructure mondiale que Alphabet ou Google a construite au début des années, fin des années 90, début des années 2000. Donc c'est pas une infrastructure qui a été créée récemment. Là. C'est la même infrastructure qui a été créée depuis qu'on utilise depuis 20 ans. C'est comme ça qu'on roule Search, Ads, YouTube, Gmail. C'est la même, globalement, c'est la même infrastructure. Donc, en termes de conformité, c'est des enjeux qu'on a réglés il y a longtemps. Maintenant, c'est sûr que quand tu arrives à certains produits spécifiques, ben, il y a tout le réaudit qui doit être fait. Puis, pousser nos processus. Être sûr que la résilience, c'est la resiliency, là, être certain que le processus de redondance, d'approbation, mise à jour du code, C'est tout encadré chez nous, tant pour Alphabet que pour Cloud. Parce qu'il faut vraiment voir les processus de développement de Google. Ce qu'on fait pour YouTube, on le fait pour Cloud. C'est-à-dire oui. Les mêmes pipelines, les mêmes pratiques de SRE qu'on a inventées pour supporter Google.
Oui. Ben c'est ça, vous mangez c'est ça. Votre propre nourriture, là, ouais. Finalement, vous faites... c'est ça que les gens ont de la misère à, peut-être à imaginer aussi, si on va parler de YouTube, c'est un exemple. Utilise les services de Google Cloud. Et ça vit pas de façon autonome, ça vise justement sur les infrastructures qui sont déjà appuyées. Tous les services de Google Workspace, la même chose, ça vient s'asseoir sur des structures en dessous qui ont été justement développées et justement robustes. Et...
L'identité, c'est un bon point, ça. Puis je te dirais que même aujourd'hui, il a fallu, j'étais en train d'accompagner un nouveau client sur Google Cloud. Puis le problème qu'on a avec son projet, c'est que l'identifiant chez Google, c'est un identifiant qui est global. C'est pas un identifiant cloud, c'est un identifiant Google. Ça veut dire que si toi, tu travailles dans une entreprise puis qu'il y a 5 ans, pour plein de raisons, tu as décidé de te créer un compte, un identifiant Google avec ton adresse d'entreprise, là, tu viens de créer une adresse xyz.com. Là, elle existe dans l'entité d'identification de Google. Fait que là, tu peux te connecter sur Gmail avec ça, tu peux te connecter sur YouTube, tu peux te connecter sur Search, c'est tous les services de Google en général. Tu peux l'utiliser comme identifiant. Là, qu'est-ce qui arrive si tu as une organisation et tu as 100, 200, 1000 personnes qui, à gauche puis à droite, ont commencé à faire ça, ont commencé à s'ouvrir des comptes G Suite ou G Workspace, puis là, ont commencé à mettre des photos, des documents, puis là, toi, tu n'as jamais utilisé Google Cloud de ta vie. Là, tu arrives, puis tu dis, on a un projet. Il y a un produit de Google, mettons, en data analytics, le data lake basé sur BigQuery de Google qui est fantastique. On veut aller là-dedans. On part le projet. Bon, première étape, on a besoin d'intégrer l'IDP pour pouvoir s'interfacer avec un identifiant unique. Mettons que l'IDP, oui. C'est Azure dans ce cas-là. Bien, on est capable de fédérer ce qui se passe dans oui. Azure, puis juste utiliser dans le cloud. C'est parfait, tout va bien. Mais à la fin de la journée, là, il va falloir prendre. Il va falloir que tous les comptes xyz.com que tu as créés pour Pierre-Jean-Jacques à gauche puis à droite, pour des besoins qui n'ont pas rapport avec la business, il va falloir que l'entreprise ou l'organisation reprenne possession de ces comptes-là. Parce qu'autrement, s'ils ne prennent pas possession de ces comptes-là, il n'y a aucune chance que tu puisses enregistrer le domaine xyz.com pour t'en servir dans la cloud.
Oui.
Gros problème.
Oui, gros problème. Je pense qu'il y en a beaucoup que mars 2020 se sont butés à ce genre de problème-là, qu'on a découvert qu'il y avait déjà des instances qui avaient été ouvertes et mises à l'abandon. Là, puis là, sur tout fournisseur confondu, cette situation-là a dû faire mal à bien des gens, créer de la surprise à ce moment-là. Mais la gestion de l'identité, c'est un volet. On va l'aborder de façon peut-être plus spécifique aussi parce que c'est quand même immense. Puis l'environnement Google a ses spécificités qui lui sont propres et justement que dans son écosystème sont très importants de connaître parce que si on casse l'identité, comme dans tous les cas, là, on casse l'identité, ça, on va pas très loin puis on voit là, ce qui se passe à l'actualité dans les fuites qu'on a dans l'actualité. Là, on est en fin septembre 2022 puis là, on a vraiment un gâchis de fuites. Mais c'est justement par des cas d'identité qui ont mal été utilisés, qui n'ont pas été suffisamment sécurisés puis des choses comme ça. Donc oui, ça on va y revenir, puis il y a des éléments très, très intéressants d'ailleurs, là, sans vouloir inventer le sujet, là, parce que j'en utilise un certain nombre de ces fonctionnalités-là, puis franchement, c'est bien.
Oui, puis ce qui est, les gens ne comprennent pas tout le temps l'impact que ça a de se connecter. Souvent, tu es dans une entreprise, tu as ton ordinateur du bureau, mais c'est ton profil personnel avec lequel tu es connecté sur Chrome pour accéder, tu voulais accéder à tes Gmail perso. Fait que là, ton browser, il est logué avec ça, avec ton compte perso. Puis là, tu te fais envoyer dans ta boîte Outlook, tu te fais envoyer un lien vers un document Workspace. Et quand tu vas cliquer dedans, ça va l'ouvrir avec ton browser qui est déjà sign-on avec ton compte perso. Puis là, la personne qui t'a partagé originalement le document, elle essaie de se connecter avec son compte perso. Là, l'erreur, c'est quand la personne qui te l'a partagé initialement dit « OK, c'est beau ».
Il y a un problème, mais en ça, de mon expérience, Google est ceux qui gèrent le mieux le multi-identité dans les navigateurs. Là, oui. et, c'est beaucoup plus facile de gérer plusieurs entités. Il peut y avoir encore des erreurs, comme tu mentionnes, mais il y en a beaucoup moins de chances que les autres fournisseurs de cloud de cette nature-là. Fait, j'aime bien ça, parce que ça sauve beaucoup de problèmes, là. Moi, ça fait pas mal le tour au niveau confidentialité, comme peut-être une mise en bouche, parce qu'on va sûrement revenir sur le sujet. Là, c'est vraiment une première, une entrée en matière. Mais c'est des choses que tu aurais aimé aborder, qu'on n'a pas abordé sur ce volet-là.
Sur le volet de l'identité ou confidentialité?
Confidentialité, parce que l'identité, on va l'aborder sur. Là, on a juste comme teasé, mais on va y revenir plus tard.
Non, confidentialité, moi, mon objectif numéro un en venant à ton podcast aujourd'hui, c'était déboulonner des mythes. Je veux vraiment mettre de l'emphase sur le fait que Google monétise pas les données de nos clients, qu'on n'y accède pas, on peut pas, qu'on les vend, donc on les vend pas, on n'y accède pas.
Ça laisse une trace.
Ça laisse toujours une trace. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Vous avez plein contrôle de nous auditer par rapport à ces données-là. Vous pouvez monter des tableaux de bord si vous voulez. Vous avez tout accès à ça à travers la console cloud. C'est pas un enjeu.
Parfait, mais merci beaucoup.
Hey, merci, ça a été cool.
Oui.